Allô, allô, ici Cine-RI.
Au moment où éclate la Deuxième Guerre mondiale, Ernst Lubitsch a déjà à son actif une filmographie considérable, tant en Allemagne qu'aux États-Unis. Metteur en scène allemand installé à Hollywood depuis 1922, déchu de sa nationalité par le régime hitlérien en 1935 et naturalisé américain l'année suivante, il produit et met en scène en 1942 une comédie désopilante, To be or not to be. Pour sa sortie en France, le film s'intitulera Jeu dangereux. Il s'agit d'une farce vraiment loufoque qui entremêle et articule avec brio trois histoires. Celle de Varsovie envahie et occupée par les nazis, celle d'une troupe de théâtre qui s'engage dans la résistance, enfin celle d'une relation amoureuse qui évolue en présence du mari trompé. À charge pour le spectateur de savoir à chaque fois mobiliser le schéma interprétatif qui convient le mieux. Rappelons brièvement l'intrigue. À Varsovie, en août 1939, le jeune aviateur Sobinski, Robert Stack, qui s'était pris de Maria Toura, Carole Lombard, vient chaque soir l'admirer lors des représentations données au théâtre Polski. Lorsque l'époux de cette dernière, le célèbre Joseph Toura, un comédien narcissique et très cabotin, Jack Benny, attaque le monologue d'Hamlet en prononçant la célèbre tirade To be or not to be, être ou ne pas être, le jeune homme se précipite pour rejoindre Maria dans sa loge car il s'agit d'un code secret entre les deux amoureux. Puis l'Allemagne envahit la Pologne. Et Sobinski doit rallier Londres pour participer aux missions de la RAF. Mais avec d'autres jeunes combattants polonais, il revient bientôt à Varsovie, une ville désormais occupée par les nazis, à l'instar du pays tout entier. La troupe de théâtre se trouve alors vite entraînée par le couple Toura et Sobinski dans un vertigineux tourbillon d'aventures loufoques, marqué par une cascade de gags, de malentendus et de faux-semblants, au terme desquels les résistants triomphent finalement des envahisseurs. D'emblée, soulignons un fascinant jeu en abîme. Des acteurs américains incarnent dans ce film des comédiens polonais qui interprètent au théâtre des nazis dans une pièce intitulée Hitler avant de jouer la pièce de Shakespeare, Hamlet. Cette accumulation de rôles vise avant tout à occulter l'identité première de ces artistes polonais. En effet, derrière ces joyeux lurons qui mènent une folle palinodie à un rythme endiablé, se cachent en fait des patriotes combattants bien déterminés à restaurer l'indépendance de leur pays envahi, bien décidés à faire prévaloir la vie sur la mort et la liberté sur la tyrannie et l'asservissement. Les deux piliers qui charpentent ce film restent le secret et le sérieux. Tout d'abord le secret. Il abrite un flirt anodin, mais il couvre et protège aussi les agissements d'un traître. Il dissimule les sabotages ou précède les aveux, que ceux-ci soient intimes et amoureux ou bien publics et éminemment politiques. Jouer la comédie devient alors une affaire de vie ou de mort. Le secret, c'est également ce qui favorise les quiproquos et provoque le rire chez le spectateur, celui qui rend par ailleurs possible les falsifications d'identité et le maquillage de lieux comme le théâtre Polski, travesti et reconverti tout à coup pour les besoins de la résistance en quartier général de la Gestapo. Enfin, le secret, c'est une technique qui a fait ses preuves, permettant un constant double langage, donnant ainsi lieu à de savoureuses private jokes, des clins d'œil adressés aux spectateurs, transformés ainsi en complices de certains des protagonistes. Cependant, le secret, une fois levé, l'ami se révèle finalement un traître, Hitler un simple sosie, le général nazi une diva de pacotille, un cabotin égocentrique, obsédé par lui-même, comme par exemple Joseph Toura, tour à tour Hamlet, puis colonel nazi, surnommé Concentration Camp Erhard, et enfin le professeur Alexander Zieletzki, redoutable espion collaborant avec les nazis. Dans la même logique, Bronski, un acteur de second rang, condamné à ne jouer que les figurants ou au mieux les utilités, devient pour quelques représentations le tyran Hitler. Mais loin des planches, il réussit mieux encore à s'imposer de manière crédible en adoptant la stature du chancelier allemand. Le temps pour la troupe de fomenter un coup monté qui va permettre à la résistance de commettre un attentat décisif. Quant à l'ensemble des comédiens, ils se montrent à la surprise des spectateurs de redoutables saboteurs et des espions efficaces malgré une fantaisie de tous les instants. Enfin, s'agissant des nazis, il s'avère souvent difficile et toujours cocasse de discerner les vrais défauts et plus encore de distinguer les nazis de conviction des simples opportunistes survivant entre la terreur et le carriérisme, tels le colonel Erhard ou le capitaine Schulz, une frontière mouvante que Lubitsch parodie et caricature au tout début du film, lorsqu'il met en scène les répétitions de la pièce Hitler ou un risque permanent de délation qui prête cependant au burlesque. En bref, il apparaît bien hasardeux, voire impossible, de discerner la vérité du mensonge, surtout si cette recherche porte de surcroît à rire et doit composer avec nombre de subterfuges et de mystifications. Ainsi, lorsque devant un officier nazi, Maria Toura demande à son mari qui vient d'endosser et d'usurper l'identité du traître Zieletzki, assassiné par sa troupe, « Comment vous sentez-vous, professeur Zieletzki ?» Il lui répond « Mort, absolument mort. » Mais le secret, qui tient un rôle si déterminant dans cette comédie, notamment comme ressort comique et ludique pour Lubitsch, il représente après tout l'un des fondements du pouvoir politique. Comme aimait à le souligner en effet Hannah Arendt, la tromperie, la falsification délibérée et le mensonge pur et simple, employés comme moyen légitime de parvenir à la réalisation d'objectifs politiques, font partie de l'histoire aussi loin qu'on remonte dans le passé. Lubitsch s'en amuse et manipule à l'envi cette donnée sociopolitique. Quant au sérieux, il est bien souvent torpillé dans ce film par un comique de répétition, comme lorsque Joseph Toura, qui vient d'endosser l'identité du colonel Erhard, se trouve en grande difficulté devant Alexander Zieletzki, qui s'apprête à le démasquer. Pour dissimuler son malaise devant les risques qu'il encourt, Toura répète alors à plusieurs reprises « So, they call me concentration camp, ha 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 !» pour meubler le vide dans lequel il se débat et est en train de se noyer, ce qui déclenche immanquablement le fou rire du spectateur. De même, lorsque Toura lance la fameuse tirade « To be or not to be » au début du film et à sa toute fin, il la déclame sérieusement et non sans grandiloquence, alors même que la situation suscite l'hilarité. Le comique tient souvent à l'ambiguïté des situations et au fait que le réalisateur multiplie systématiquement les décalages entre des propos désinvoltes ou drôlatiques et des situations tragiques ou bien inversement. Cette technique de dédramatisation et de séduction permet ainsi à Lubitsch d'éviter tout risque de pathos et de lourdeur bien pensante. En outre, elle confère paradoxalement à son œuvre une profondeur indéniable. C'est aussi ce qui lui a permis de ne pas apparaître au fil des décennies comme une œuvre datée. En effet, plus d'un demi-siècle après cette création, on se retrouve toujours sous le charme d'une œuvre spirituelle qui fait de tout spectateur un complice acquis au style Lubitsch. À l'exception notable de L'homme que j'ai tué, un film pacifiste de facture dramatique que Lubitsch réalisa en 1932 sur la Grande Guerre et auquel Chaos International a déjà consacré une pastille audio. Nous retrouvons une fois de plus avec le malicieux et brillant opus « To be or not to be » la fameuse Lubitsch touch, faite de gaieté, d'apparente insouciance, d'allusions, d'ellipses temporelles et visuelles, d'ironie, de légèreté et de constante finesse dans l'humour. De réalisation en réalisation, Lubitsch ne cesse de s'amuser très sérieusement, de naviguer à vue en construisant son œuvre sur ce que le sociologue allemand Simmel nommait l'horizon flou de la personnalité, l'entre-deux où la croyance prend la relève du savoir. Avec les comédies de Lubitsch, tout est faux et rien n'est faux, car tout est à la fois vrai et faux. Reste au spectateur à maîtriser et déchiffrer les indices d'équivocité que Lubitsch sème à profusion dans son film. Un ensemble détonnant et singulier à ce réalisateur qui opère toujours avec élégance et comme par miracle dans chacun de ses films, tels Trouble in Paradise, Haute Pègre en 1932, Ninotchka en 1939, ou The Shop Around the Corner en 1940. Mais ne nous y trompons pas. Si Lubitsch est certes toujours léger, il n'apparaît jamais superficiel, et encore moins futile. Dans la lignée de Pascal et de Kierkegaard, il aime en fait à traiter sérieusement des choses légères et légèrement des choses sérieuses. C'est pourquoi To Be or Not To Be est bel et bien un film politiquement engagé, une virulente satire du nazisme, qui a su aborder sur un ton vaudevillesque l'invasion de la Pologne et sa résistance. Ce faisant, le satiriste Lubitsch a réussi jusqu'à aujourd'hui à sensibiliser les spectateurs au terrible sort que connut ce pays et à donner au passage une leçon de démocratie.